Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Obadia. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit « L'art contemporain », le sous-titre c'est « Des esprits conquérants » aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors, je vous présente, vous êtes galerie spécialisée dans l'art contemporain et membre du bureau du comité professionnel des galeries d'art, dont vous avez assuré la vice-présidence pendant 3 ans, et vous reprenez.
Je reprends du service. Voilà. Après, je l'avais abandonné en 2008 parce que je venais ouvrir justement une galerie à Bruxelles.
Après une maîtrise de droit et le diplôme de Sciences Po, vous rejoignez la galerie Daniel Templon avant d'ouvrir votre galerie à Paris en 1993. Vous avez ouvert donc une galerie à Bruxelles et depuis 2015, vous enseignez à Sciences Po un cours d'analyse du marché de l'art contemporain. Vous êtes officier de l'Ordre des Arts et Lettres, chevalier de l'Ordre National du Mérite, chevalier de la Légion d'honneur. Et vous aviez écrit en 2023 « Géopolitique de l'art contemporain ». Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce nouveau livre « Figure de l'art contemporain » Il y a le « S » entre parenthèses.
Alors, c'est le nom de la collection.
D'accord.
Voilà, c'est le nom de la collection « Figure 2 ». Mon éditrice, qui avait été heureuse de notre première collaboration avec Géopolitique de l'art contemporain, la première édition était de 2019 et la seconde édition de 2023, a lancé cette collection justement. Et donc, c'est figure de l'anarchisme, figure de l'écologie. Elle est venue me voir il y a 2 ans en me disant pour les figures de l'art contemporain, je souhaiterais que ce soit vous. Et j'ai dit, écoutez, ça tombe très bien parce que j'ai cherché une nouvelle idée parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire l'ouvrage sur la géopolitique. Et donc, je me suis lancée. C'est le schéma de la collection, 24-25 personnalités. Donc, les voilà.
Alors, il est question évidemment d'art contemporain. Depuis la fin des années 60, vous présentez les figures majeures de l'art contemporain pour saisir leur imbrication. Et c'est là l'originalité de ce livre, c'est qu'on se rend compte en le lisant combien l'interdépendance est absolue. Il y a donc l'artiste, le créateur de l'événement, le marchand, le collectionneur, l'architecte. Vous prenez un seul architecte, je crois.
Oui, c'est Renzo Piano.
Exactement. Pourquoi lui?
Parce que c'est celui qui est aujourd'hui... le créateur des plus grands musées d'art contemporain. D'abord le premier, qui est le Centre Pompidou, qui aujourd'hui va fermer pendant 5 ou 6 ans pour des travaux. Mais c'est celui qui a créé le musée d'art contemporain à Paris. C'est une commande de Pompidou qui est ouverte après en 1977, mais qui a changé déjà la face de Paris, qui était un petit peu engloutie avec la puissance des États-Unis et de l'Allemagne. Et c'est vrai que cette architecture complètement avant-gardiste au centre de Paris était déjà un point d'ancrage formidable pour l'art contemporain. Puis ensuite, on les connaît, c'est la Fondation Beyeler, bien entendu. Le deuxième musée, c'est la Fondation Doménil. Qui est absolument extraordinaire aussi à Houston. Et puis, il y a des dizaines de musées. Et puis, surtout, c'est un architecte formidable puisqu'il est au service de l'art. Il n'a jamais cherché à effacer ou à contraindre les artistes ou les œuvres d'art contemporain. Au contraire, il a été à leur service et leur rend hommage.
Vous commencez votre livre sur Francis Bacon et je le cite, vous le citez plus exactement, il dit « Préférer peindre le cri plutôt que l'horreur, la violence doit résider dans la peinture elle-même plutôt que dans la scène qu'elle montre. »
Alors, effectivement, j'ai commencé à me poser la question quels artistes pouvaient représenter cette scène de l'art contemporain depuis la fin des années 60. C'est l'avènement d'art conceptuel, mais il y a des formidables personnalités comme justement Bacon, qui est un grand peintre expressionniste et qui est, un résistant de la peinture et qui a surtout permis à des artistes plus jeunes, je pense notamment à Cecily Brown, elle-même anglaise, ou à des artistes de la scène française, peut-être Gérard Garouste aussi se sont libérés, si vous voulez, et en tout cas autorisés à continuer, même si on ne demande pas autorisation. Mais en tout cas, c'est vrai que Bacon a permis ce chemin de la peinture, alors même qu'elle était attaquée de toutes parts par des critiques et par des avant-gardes très, très radicales.
Mais le choix n'a pas dû être tellement facile à faire, hein.
Alors, c'est un choix, j'ai dit, c'est un choix, évidemment, c'est le mien.
C'est votre choix, c'est ce que vous aimez.
Oui, c'est le mien. Oui. Alors, ce n'est pas forcément ce que j'aime. Le principe était pour moi, et pour les lecteurs en tout cas, de proposer un panorama de personnalités influentes, inspirantes et qui ont marqué la scène de l'art contemporain depuis les années 70. Donc je ne sais pas si... je sais que je ne suis pas, on va dire... Je n'achèterai pas forcément une photographie de Gursky, mais il est vrai que la photographie allemande, l'école de Düsseldorf, a été extrêmement importante pour la scène allemande, pour la scène de l'art contemporain et surtout a fait rentrer la photographie par la grande porte. Donc si vous voulez, ce sont des constats. Voilà, c'est à un moment donné des constats où on se dit, oui, ce sont des personnalités extrêmement marquantes. Quand je parle de Okwuen Weziore, justement, le curateur qui a, alors, nigérien, devenu américain, donc noir, qui a effectivement s'est fait connaître en faisant la les biennales de Venise, mais avant ça, la documenta de 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement. C'est un constat, c'est-à-dire que c'est lui qui est devenu une vedette grâce justement à ses positions. Par contre, c'est vrai que Catherine David, qui avait fait documenta 5 ans auparavant et qui avait fait rentrer les pays non occidentaux, bon, de par sa personnalité, elle s'est fait moins connaître, mais par contre, c'est vrai qu'elle est aussi importante. Mais c'est Okwuen Weziore qui a su prendre la lumière.
Dans chacun des chapitres, vous parvenez à raconter justement l'itinéraire, la carrière de ces personnalités. Et c'est tout à fait intéressant parce que si on les connaît, on découvre autre chose. Si on ne les connaît pas, on apprend quelque chose. Et donc, je me disais peut-être, pour nos auditeurs, vous pourriez lire un extrait, un passage du portrait de Boltanski que vous faites.
Oui.
Page 46.
D'accord, je vais dire. Et c'est vrai que, juste pour reprendre ce que vous disiez, on se rend compte, à travers ces 24 personnalités, c'était plus facile que l'on croit, finalement, de faire de ce choix. Mais en tout cas, toutes ont eu en main leur destin, l'ont construit. Et voilà, ce sont des personnalités effectivement très concurrentes, qu'elles soient artistes ou même les collectionneurs qui ont cherché à laisser une trace. Et donc, je vais lire ce passage de Boltanski qui est un peu comme Bacon, c'est-à-dire finalement qui s'est éloigné de l'art conceptuel, qui ne s'est pas laissé entraîner par des diktats. On va dire, vraiment, le mot n'est pas trop fort, ce qui se passait en France dans les années 70. Et au contraire, aujourd'hui, s'il reste aussi important, c'est parce qu'il a laissé une trace tout à fait personnelle, justement dans une veine expressionniste. Avec les années et une assurance assumée, Boltanski défend son approche de créer et réinterpréter ses œuvres selon les lieux avec des environnements sonores, lumineux, souvent plongés dans la pénombre. Il assume son histoire tourmentée en expliquant, je le cite, que le désir de l'artiste, c'est de devenir son œuvre. Mon art a toujours été sentimental, très peu théorique, ce qui lui vaut d'être critiqué comme étant un artiste proustien, loin donc des avant-gardes. Il ne cherche à être ni un intellectuel ni être dogmatique. Il est un intuitif qui affirme au cours de différents entretiens qu'il n'y a, je le cite encore, aucun progrès en art. Les sujets artistiques sont toujours les mêmes depuis le début des temps, 5 ou 6. La recherche de Dieu, le sexe, la mort, la beauté de la nature. Mais à la mort de ses parents au milieu des années 80, la portée de son œuvre devient de plus en plus universelle. Après son exposition à l'Arc en 1981, et de sa première exposition en 1984 au Centre Pompidou, Boltanski est invité à occuper en 1986 la chapelle de la Salpêtrière dans le cadre du Festival d'automne. Cette exposition correspond à la mort de son père qui marque un tournant très important dans la pensée de Boltanski qui revendique une quête religieuse le faisant replonger dans ses racines juives. Lui, enfant de la Shoah, comme il se définit, mais aussi dans le souvenir de son père converti au catholicisme et devenu très mystique. Cette relation directe avec la religion aboutit à la cassure totale avec les artistes conceptuels français, totalement opposés à ce type de questionnement métaphysique.
Nathalie Obadia, figure de l'art contemporain à des esprits conquérants, c'est Le Cavalier Bleu édition. Comment vous expliquez le retour justement aujourd'hui de la peinture figurative ?
Alors, je dirais qu'elle n'a jamais disparu, simplement elle était, pour reprendre un mot à la mode, invisibilisée par ce qu'on appelle justement les art players, les tastemakers, ces personnes qui font le goût, sont à la tête d'institutions, de revues importantes, à la tête des biennales, de Venise, de documentaires, voilà, donc des personnalités en tout cas très, très influentes et qui, pour différentes raisons, ont plutôt mis en avant dans les années... justement dans les années surtout 70 et surtout en France, justement, un art qui était éloigné de la peinture et de la figuration et de l'expressionnisme, comme justement on en parle avec Bacon ou des artistes comme Boltanski que le font avec des objets. C'était une manière de marquer l'avant-garde, c'était une manière radicale de vouloir rentrer dans un nouveau monde. Alors on va dire que l'opposé, c'est, enfin, pour parler d'une personnalité très connue, c'est Buren, voilà. C'est-à-dire que voilà, c'était un peu une querelle. Plus qu'une querelle d'ailleurs, c'était une espèce de diktat de vouloir imposer l'abstraction, de reculer devant la figuration qui avait une image rétrograde et je dirais presque bourgeoise. Ça, c'était aussi quelque chose qui a beaucoup marqué le marché français, le fait de ne pas mettre en avant la peinture figurative puisqu'elle était associée au capital, au collectionneur qui continuait à collectionner une peinture soi-disant classique. Ce débat était différent aux États-Unis et en Angleterre, il n'a jamais existé pour des raisons justement aussi politiques. Donc aujourd'hui, on s'éloigne et l'Allemagne, bien entendu, hein, avec Berzelitz ou Polke ou d'autres artistes ont réussi à se faire connaître. Mais en France, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus ouvertes et on s'aperçoit que des peintres figuratifs de la nouvelle génération, je pense à notamment des artistes comme par exemple Claire Tabouret ou d'autres, aujourd'hui ont leur place et heureusement que cela évolue.
Justement, vous auriez pu faire de l'art contemporain, enfin, ce livre uniquement des peintres, et vous avez choisi de parler des curateurs, ou curateurs plus exactement, et des galeristes, des marchands, des collectionneurs, de tous les autres acteurs de l'art contemporain. Vous trouvez qu'ils façonnent eux aussi?
Ah oui, c'est bien sûr, c'est un cercle. Il a toujours existé les collectionneurs, les marchands et les artistes. Les artistes, bien sûr, les marchands et les collectionneurs. Mais c'est vrai que si j'ai choisi cette césure des années 70, c'est parce que sont apparus, avec l'avènement justement de l'art conceptuel, de ces objets qu'il fallait mettre en scène, il fallait des chefs d'orchestre. Le conservateur qui est là pour conserver des œuvres et qui vient du musée n'était plus la personne appropriée. Et donc, il a fallu accompagner cette création contemporaine qui était en train de se faire et parfois qui se faisait même sur le lieu même du lieu d'exposition. Et donc la figure, on va dire, tutélaire, c'est l'exposition organisée par Harald Zeman, Les attitudes deviennent formes, en 1969. Harald Zeman est pourtant un conservateur, il travaille au musée de Berne et tout d'un coup, justement, il passe de l'autre côté, il devient curateur.
Alors, expliquez la différence entre les deux mots. Pour ceux qui...
Parce que curator, ça vient surtout de l'américain. Enfin, c'est un mise en...
Surtout, la traduction, c'est...
Commissaire d'exposition.
D'accord.
Qui est moins joli. C'est commissaire d'exposition, curateur. C'est justement un intellectuel ou une personne qui accompagne les artistes dans d'art contemporain. Après, maintenant, voit bien la Biennale de Venise, les choses se mélangent. Mais qui agissent de concert avec les artistes. Il y a même eu des débats où on a dit que des curateurs étaient pratiquement même des artistes, puisqu'ils se mettaient pratiquement à la place du créateur, justement, pour créer l'événement. Et c'est aussi l'accélération de ce monde de l'art avec le phénomène de biennalisation. Évidemment, la Biennale de Venise existe depuis 1985, Documenta en 1955, les biennales de Sydney, de São Paulo, de Sharjah aujourd'hui, sans parler de toutes celles, il y en a plus d'une 200 ou 300 maintenant. C'est un corps de métier qui est très important, qui c'est totalement
depuis quand alors?
Qui existe finalement depuis très très longtemps, puisque
d'accord.
C'était depuis
très longtemps. Ça s'appelait pas comme ça.
C'était au départ des conservateurs. Et puis petit à petit. Ils sont contemporains et puis surtout parallèles avec les artistes contemporains.
Oui, et vous parlez donc de pas mal de galeristes.
Alors, les galeries, j'ai choisi deux galeries phares qui marquent en tout cas les années 70. La suite de Léo Castelli, qui est évidemment le grand marchand américain du pop art, c'est Larry Gagosian, voilà, que évidemment tout le monde connaît, qui doit avoir qu'à peu près 80 ans aujourd'hui, et qui marque justement la puissance de l'Amérique. La mondialisation aussi du monde de l'art, c'est-à-dire qu'il ouvre, il y a plus de 25 ans, une galerie à Londres, une galerie à Paris, des galeries à Hong Kong, à Athènes, à Rome, enfin un peu partout. Il, évidemment, est le principal collectionneur des nouvelles fortunes hors d'Amérique, alors évidemment européennes. C'est lui, par exemple, que François Pinault, nouveau collectionneur français, c'est chez lui qu'il va acheter quand même énormément d'œuvres. Donc c'est vraiment important, ça montre la puissance, effectivement, et de François Pinault et de la scène française après, puisque on sait que Bernard Arnault, l'autre locomotive, va aussi beaucoup chez Larry Gagosian. Et puis Larry Gagosian, c'est lui qui vend aujourd'hui aux oligarques russes, enfin du moins il y a 20 ans, c'est lui qui vendait la plus grande fortune d'Ukraine qui s'appelait Monsieur Pinchouk, c'est lui qui vend en Chine ou à Hong Kong auprès des plus grands collectionneurs. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, Larry Gagosian symbolise, si vous voulez, la mondialisation du monde de l'art. Et à côté, j'ai pris une galeriste qui s'appelle Marianne Goodman, qui doit avoir 95 ou 96 ans aujourd'hui. Je l'ai prise parce qu'elle symbolise, si vous voulez, le fait qu'il n'y a pas que des Larry Gagosian, il y a aussi le marché et des galeries qui restent sur une forme très classique. C'est-à-dire, bon, elle a évidemment deux ou trois galeries dans le monde. Elle a ouvert à New York, qui est toujours sa galerie principale. Mais c'est une galerie qui a choisi d'être très proche de ses artistes, de continuer justement d'une manière traditionnelle, on va dire presque artisanale, le métier de marchand. Et surtout, là où elle était très intéressante, c'est qu'elle a réussi à montrer et à exposer aux États-Unis dans les années 70-80, des artistes européens qui étaient délaissés. Voilà, donc c'est une espèce de résistance, on va dire, à une superpuissance américaine. Voilà.
Nathalie Obadia, on va écouter votre choix musical, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes membres. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu me. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Qu'on s'aime. Nathalie Obadia, l'art contemporain, c'est chez Le Cavalier Bleu. Vous parlez aussi d'un personnage d'une personne comme Suzanne Pagé. Vous dites qu'il est pratiquement impossible de trouver des informations biographiques sur elle. Elle n'apparaît pas dans le Who's Who, elle n'apparaît pas ici et là.
Ah, alors, Suzanne Pagé, c'est vraiment intéressant puisque je crois que c'est... Je crois que je l'appelle, c'est une vraie résistante, c'est une vraie activiste, comme je dis, activiste, parce qu'elle a commencé à la fin des années 60, 66, 67, exactement, dans une antenne très avant-gardiste du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, dont elle prendra après, en 86, la direction. Mais quand on regarde tout le programme qu'elle a fait, il était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que Pompidou n'a ouvert qu'en 77, mais même après l'ouverture de Pompidou, quand on regarde sa programmation, elle a fait avant 90% des cas, avant le Musée national d'art moderne, elle a fait les expositions des plus grands artistes dont on parle aujourd'hui. Voilà, que ce soit Louise Bourgeois, que ce soit Kouzema, que ce soit les Allemands comme Gerhard Richter. Et vraiment, c'est incroyable parce que la France était vraiment dans une situation vraiment compliquée. Dans les années 60-70, on était, on va dire, en dessous d'une espèce de pont entre les États-Unis et la RFA de l'époque. Et puis après, l'Angleterre s'est réveillée. Et nous, on était quand même un petit peu timides avec tout ça. Et on avait un problème justement d'engagement sur la scène de l'art contemporain. Elle avait des choix, on ne sait pas, on voit à peu près lesquels, mais même s'il fallait montrer des avant-gardes comme évidemment des artistes comme BMTP, très radicaux, avec justement des artistes comme Buren, c'est elle qui a montré d'ailleurs Boltanski, avant aussi le Centre Pompidou. Et là où elle était très intéressante, c'est qu'elle faisait appel à des jeunes curateurs. Quand elle voyait que, elle connaissait un peu moins, elle prenait de l'âge, elle ne voyageait pas forcément dans le monde entier, et elle faisait appel à des curateurs dont Hans Ulrich Obrist, qui est un petit peu, on va dire, le fils spirituel d'Harald Zeman. Et c'est vrai que c'est des curateurs comme Hans Ulrich Obrist et d'autres qui lui ont permis de montrer aussi avant tout le monde des artistes français les plus reconnus aujourd'hui, que sont Philippe Parrainaud, que sont justement Pierre Wig ou Dominique Gonzalez Foster. Donc ça, c'est vraiment une personnalité à qui on doit énormément, et qui d'ailleurs, au moment de sa retraite, a rejoint la collection Arnaud. C'est elle qui est aujourd'hui à la tête de la fondation Vuitton. Donc, vous savez, M. Arnaud, dont on sait effectivement qu'il a un grand sens, justement, de la qualité des personnes qu'il emploie, ne s'était pas trompé en allant, justement, prendre Mme Suzanne Pagé à la fin de sa carrière dans le service public.
Et vous, Nathalie Obadia, vous avez choisi d'ouvrir une autre galerie à Bruxelles ?
Oui, en 2008, exactement. J'aime beaucoup la Belgique depuis très longtemps. En 2008, les choses ont un petit peu changé, mais en 2008, je me suis rendu compte, je participais à la foire d'art Bruxelles, bien entendu, que les collectionneurs belges, qui sont très actifs et très nombreux dans toute la Belgique, avaient, on va dire, un tropisme qui les portait vers Londres, vers Berlin, qui était très actif à l'époque, et évidemment aux États-Unis, et on ne les voyait pas trop à Paris. Alors, c'est aussi la faute de Paris, qui était une ville beaucoup moins active pour l'art contemporain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, différentes raisons, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on ne les voyait pas trop. Donc, je me suis dit, c'est à moi de venir. Et donc, en 2008, j'ai ouvert une galerie et j'en suis très heureuse parce que ça me permet effectivement de multiplier des projets d'artistes de la scène française dans les musées, notamment en Belgique. Et puis aussi de montrer des jeunes artistes belges comme Joris van der Mortel ou Sophie Keuschken qui aujourd'hui ont des projets dans plusieurs musées en France d'ailleurs et en Belgique. Joris vient de finir une très belle exposition au SMAC, justement, et Sophie Keuschken va faire une exposition au musée d'Ixelles quand il va ouvrir d'ici peu. Et André Serrano, par exemple, grâce au lien que nous avions entre la galerie et la direction du musée Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, de Belgique, nous a permis de faire une exposition extraordinaire d'André Serrano il y a pratiquement une petite dizaine d'années maintenant. Donc, si vous voulez, je suis très heureuse et les choses étant évoluant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'échanges entre les collectionneurs belges qui viennent en France et les collectionneurs français qui aiment venir en Belgique régulièrement.
Et alors,
régulièrement.
Vous partagez votre temps entre Paris, Bruxelles, plus toutes les foires dans le monde entier.
Voilà.
Donc vous ne cessez de voyager.
Voilà,
je ne sais pas comment vous avez trouvé le temps d'écrire ce livre. Mais...
Voilà, donc ce sont les foires, on en fait entre 10 et 12 dans le monde entier, c'est-à-dire entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe.
Comment est-ce que les artistes peinent autant? Vous avez suffisamment d'artistes pour pouvoir montrer à chaque fois, vous renouveler, montrer dans chaque...
Alors, nous avons aujourd'hui, après 32 ans de galerie, j'accompagne, on va dire, une petite quarantaine d'artistes. Alors, certains de manière plus ou moins proche, selon la nationalité, selon le fait qu'ils aient des galeries à l'étranger ou pas. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui font aussi des éditions, les photographes font des éditions. Une artiste comme Laure Prouveau, justement française, mais qui habite ici en Belgique, fait aussi bien des œuvres uniques, mais elle fait aussi des très belles tapisseries, d'ailleurs, qu'elle fait fabriquer en Flandre, et ce sont des éditions de trois. Donc, cela nous permet quand même de pouvoir montrer une, par exemple, à Tefaf, Maastricht, et puis de montrer une autre édition dans une foire en Asie ou en Europe. Voilà. Mais c'est aussi parfois la limite de l'exercice, et si je ne fais pas certaines foires, ce n'est pas simplement parce que le marché dans la ville qui accueille la foire ou le pays est un peu compliqué pour des raisons économiques et politiques, comme ça se passe en Hong Kong, on va dire, aujourd'hui, mais c'est aussi parce que je sais que je ne peux pas exposer sur mon stand des artistes et des œuvres de qualité, donc ça ne sert à rien. Voilà, là, il ne faut pas le faire, parce qu'un stand de foire, c'est toute l'image de la galerie. Donc, ce n'est pas simplement de vendre une œuvre sur une foire, c'est aussi notre image, c'est notre travail de promotion. On rencontre les conservateurs et les curateurs, justement, sur les stands de foire. Donc, il faut vraiment avoir des stands de grande qualité avec des œuvres qui permettent de pouvoir inventer des projets ensuite avec ces directeurs de musées dans des musées ou dans des biennales.
Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre métier, c'est de trouver des nouveaux peintres, de les faire travailler, c'est le rapport au client, c'est à quel... Enfin, j'imagine que c'est un ensemble de choses.
Alors, c'est un ensemble de choses, tout est passionnant, c'est-à-dire effectivement le fait de rencontrer des artistes, de s'engager avec eux, de pouvoir avoir... de pouvoir accéder à leur atelier, d'avoir des discussions permanentes sur leur travail, sur leurs doutes, leurs inquiétudes, sur les accompagner pour des projets. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est de convaincre. Vous voyez, c'est toujours ce que je dis, mon métier, c'est d'influencer les gens influents. Voilà. Donc, c'est effectivement de convaincre les collectionneurs prescripteurs, de convaincre des collectionneurs qui ont besoin de comprendre et de se faire convaincre justement de la qualité et de la pertinence du travail d'un artiste, et puis surtout avec les directeurs de musée. À la galerie, on développe beaucoup ce travail-là. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis très heureuse que Christophe Le Ribaud ait choisi comme première exposition d'art contemporain au château de Versailles Guillaume Bresson. Voilà, un peintre figuratif qui revient en France, parce qu'il habite aux États-Unis avec cette exposition extraordinaire. Et puis, l'exposition va aller ensuite au musée de Grenoble. Et on a Laure Prouveau qui va investir trois musées à Marseille la semaine prochaine. Voilà, donc on a ça, c'est vraiment très important, les relations que l'on peut tisser avec les musées contemporains, mais aussi classiques en France et partout dans le monde. Le fait aussi de vendre des artistes français aux États-Unis. Quand j'ai vendu Laure Prouveau au musée Hirshhorn de Washington, j'avoue que c'est une belle victoire.
Nathalie Obadia, est-ce que vous avez un mot de conclusion?
On n'arrête jamais, et voilà, c'est ça qui est
formidable.
Vous avez
envie d'écrire un autre livre? Vous avez pris goût à l'écriture?
Oui, j'écrirai un autre livre, je ne connais pas encore le sujet, mais je trouve que c'est très stimulant pour tout le monde, d'ailleurs pour l'ensemble de la galerie aussi, on échange avec toute l'équipe justement sur mes choix, sur mes lectures, donc c'est tout à fait stimulant.
Merci beaucoup Nathalie Obadia d'être venue à Radio Judaïka parler de votre livre « L'art contemporain des esprits conquérants », c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Merci à Clément à la technique. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 11h.